C'est d'abord un Dieu qui parle et qui édicte des commandements. Moi, c'est comme ça que ça apparaît dans la Bible, c'est-à-dire une parole de Dieu qui transcende tous les raisonnements humains, tous les efforts des hommes faits jusque-là pour essayer de réfléchir aux règles de la vie en société, montre une irruption de Dieu dans le domaine de la morale, alors que jusque-là, celle-ci était plutôt le domaine des sages, qui n'étaient pas forcément des hommes religieux, en tout cas qui ne parlaient pas énormément de Dieu, hein, mais qui transmettaient une expérience de vie. Alors, une fois qu'on a insisté sur l'importance de cette parole de Dieu, qu'on a vu comment l'homme pouvait la recevoir, reste que pratiquement, il va y avoir sur le même terrain les commandements de Dieu qui nous diront par exemple tu ne tueras pas, et d'autre part la réflexion des hommes qui aussi sont arrivés à leur façon à dire que c'est quand même pas l'idéal de tuer les gens. Donc comment articuler la morale naturelle avec la loi divine? Voilà, c'est exactement notre sujet d'aujourd'hui. Alors selon des bons principes, je commence par faire un parcours de la tradition depuis l'Ancien Testament jusqu'au pape François, que je citerai d'ailleurs pas beaucoup là parce que c'est un sujet qui est partiellement abordé. Et donc, ce qui est très intéressant pour l'Ancien Testament, c'est la question justement de la sagesse. Hein, la sagesse dans la Bible, c'est un sort assez contrasté. Hein, d'abord, on voit qu'au départ, il y a une méfiance pour la sagesse. La sagesse de ce milieu de scribes qui était généralement lié au pouvoir royal, ce milieu est composé de gens très malins, très habiles, mais qui parfois sont aussi sans scrupules. Donc on voit une sorte de méfiance vis-à-vis de la sagesse. On la voit par exemple dans Récit de la Genèse, à propos du serpent, on dit qu'il est très astucieux, Arum, en hébreu, hein. Et puis, au moment, alors, dans les récits du règne de David, on voit que le conseiller de David, Ahithophel, qui est donné comme un homme très intelligent, ben en fait, c'est une catastrophe parce qu'il va finalement se mettre avec Absalom, qui est le fils insurgé contre David, et va essayer de lui donner des conseils qui se termineront très mal. Donc, le grand sage, celui qui est conseiller avisé de David, s'est révélé un homme trop malin, finalement embrouillé dans ses intrigues et qui aboutit à des catastrophes. Donc, on trouve souvent chez les prophètes une espèce de malédiction des sages, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence de les intelligents, je la rejetterai. C'est dans la première partie du livre d'Isaïe. Alors, d'un autre côté, ce n'est pas un refus total. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la sagesse, c'est-à-dire l'intelligence, quand même une valeur, que les hommes, quand ils réfléchissent, et s'ils font un effort pour que leur réflexion soit profonde et ne soit pas simplement dictée par l'intérêt, eh bien, l'intelligence humaine, elle n'est pas sans grandeur. Et que, d'un certain côté, on peut même dire que c'est Dieu, le grand sage, le sage par excellence, la sagesse même, qui inspire aux âmes droites des pensées de sagesse. Et donc, Dieu était qualifié par le livre, qu'on appelle précisément le livre de la sagesse, de guide de la sagesse et de directeur des sages. Donc il y a la conviction que quand même, quand les hommes sont intelligents, c'est pas sans une certaine participation de Dieu qui éveille leur cœur, leur intelligence, leur donne des lumières pour faire ça. Et que on ne peut pas faire fi du travail de l'intelligence humaine. Alors ça aboutit, vous le savez sans doute, dans certains livres de la Bible, à mettre en valeur une figure de la sagesse personnifiée. Alors c'est surtout net dans les deux passages que je cite, c'est-à-dire Proverbes chapitre 8 et Siracide, Ecclésiastique comme on disait jadis 24, dans lequel la sagesse est représentée comme une dame, hein, qui est auprès de Dieu, qui inspire ses plans et ses projets, notamment la création. La création, Dieu a fait sa création avec sagesse. Il a mis dans la création un ordre. C'est pas un tas d'objets à forme qu'il a créé. Il a créé quelque chose qui a une structure, qui a une logique. Eh bien, ça, c'est la sagesse de Dieu. Et d'autre part, cette sagesse, on nous dit qu'elle est venue habiter en Israël. Alors ça, on va voir ça après. Mais donc, c'est un personnage qui est très énormément mis en valeur et qui est représenté avec tous les attributs de la divinité. Alors, je fais envie pour faire une parenthèse. Ces réflexions servent ensuite beaucoup à saint Paul quand il essaiera de comprendre comment Jésus peut être Dieu, tout en ne supprimant pas évidemment le monothéisme d'Israël. Il se servira de l'image de la sagesse pour penser le rôle du Christ. Mais enfin, ça, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors, le résultat, c'est que, à partir d'un certain moment, on fait une place dans la révélation à la sagesse. Vous savez, tous ces livres, hein, qui viennent après les prophètes, enfin, ou parfois avant, ça dépend des plans, mais enfin, dans lesquels nous avons des collections de maximes, de sentences, dont certaines assez terre-à-terre, mais d'autres d'une très haute élévation morale et spirituelle. Et on a l'impression qu'en fait, on a dégagé tout ce qu'il y avait de meilleur dans la réflexion des sages, c'est-à-dire encore une fois de ce milieu qui est de scribes, c'est-à-dire de gens qui maîtrisent l'écriture et qui ont le temps et les moyens de réfléchir sur la vie et qui mettent, bien avant Israël, qui mettent ça dans des collections de textes où ils donnent l'essentiel de leur pensée. Donc on voit qu'on acclimate en Israël des écrits, des pensées, des réflexions qui viennent de cette sagesse. Bien sûr, on essaie de la purifier. On n'y trouve pas tout. Tout n'est pas repris littéralement, loin de là. Et puis, on a régulièrement ce refrain, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça, c'est très... C'est pour des hommes qui ont l'expérience de la loi de Dieu, de l'alliance avec Dieu. Donc, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, il ne faut pas se tromper, la sagesse dont on parle, ce n'est pas seulement l'arrivisme des gens qui disent « je vais vous enseigner bon moyen de conquérir les meilleures places ». Ce n'est pas ça quand même, la sagesse biblique. Même s'il y a l'écho d'expérience en disant par exemple, c'est important d'avoir un ami fidèle, il faut pas avoir trop d'amis parce que ce ne sera plus vraiment de l'amitié, et puis alors comment choisir une bonne épouse, enfin on a beaucoup de réflexions, de bon sens finalement, mais d'un bon sens qui coexiste très bien avec la vision religieuse qui est celle du peuple de Dieu. Alors à la fin, on a cette chose très curieuse qu'on a des déclarations disant « mais finalement la sagesse suprême, c'est encore la loi ». Vous voyez, les deux courants en quelque sorte se rejoignent et on finit par dire la loi, c'est bien ce qu'il y a de plus sage au fond. Alors vous avez ça dans le passage du Deutéronome que je vous indique, Deutéronome 4-6, c'est un texte qu'on lit assez souvent. Les païens diront mais ce peuple, il a une loi, mais alors qui est d'une sagesse extraordinaire. Donc même les païens diront la loi de Dieu. Donc vous voyez, la sagesse, c'est à la fois une source en quelque sorte autonome qui va s'ajouter à la loi, et d'autre part la loi elle-même est qualifiée de sagesse. Alors vous avez ça aussi dans le livre de Baruch, c'est un texte qu'on peut utiliser pour la vigile pascale, je ne sais pas si dans votre paroisse on s'en sert, parce que généralement on ne met pas toutes les lectures, hein, mais c'est un très beau texte du livre de Baruch. Et puis, Siracide, on dit, La sagesse de Dieu s'est acclimatée en Israël et elle a livré les plus hautes pensées divines à travers la loi. Oui, la loi et la sagesse finissent par se rejoindre en quelque sorte. Alors, indépendamment de ça, on a dans l'Ancien Testament un certain nombre d'évocations élogieuses de la valeur morale des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Il y a un texte qui est très curieux, c'est dans la Genèse, Genèse 12, c'est le début de l'histoire d'Abraham. Or, Abraham, on ne peut pas dire, il ne paraît pas sous un beau jour. Quand il va en Égypte, il a remarqué que, comme sa femme est assez belle, Pharaon commence à la regarder. Et alors, il se dit, oh là, Pharaon va me. Ben, il ne faut pas qu'il me tue pour pouvoir la voir. Je vais dire qu'elle est ma sœur. Hein, c'est malin. Alors, résultat, le Pharaon, il se dit, bon, allons-y. Hein, il la prend dans son harem. Hein, et alors, il attrape des tas de maladies. Alors, finalement, il comprend. Il dit, mais enfin, tu n'aurais pas pu me le dire, quoi, que c'était ta femme, j'aurais pas touché. Mais puisque tu t'es fait. Le père des croyants apparaît sous un jour assez peu recommandable. Par contre, l'homme moral, c'est Pharaon, qui dit, moi, je n'aurais jamais fait ça si j'avais su, enfin, etc. Louis XIV aurait bien fait de faire pareil. Bon. Alors, il y a la mise en valeur du saint homme Job aussi. Job n'est pas un Israélite, hein, je disais ça. Alors, bien sûr, c'est un personnage de fiction, mais quand même, on ne cherche pas à le dire, ben, il est membre du peuple de Dieu. Et dans l'histoire de Jonas, alors, le sale type, c'est plutôt Jonas, d'ailleurs, vous savez, parce que quand il fuit la mission que Dieu lui a confiée, ça c'est savoureux, le chapitre 1, il fuit la mission, Dieu lui a dit, va donc à Ninive et lui prend un bateau vers l'ouest. Il n'a vraiment pas envie d'y aller. Alors. Mais malheureusement, Dieu, je n'entends pas comme ça, il y a une grande tempête, vous savez, et les matelots se disent, oh là là, qu'est-ce qui nous arrive? Et alors il prie, il dit à Jonas, prie aussi ton Dieu, mais alors Jonas n'ose pas parce qu'il sait très bien qu'il est en train de pas faire la volonté de Dieu. Et alors les païens veulent pas le tuer, disent, ils tirent au sort, oui, quel coup, enfin d'où ça vient, tout, le sort tombe sur Jonas. Et ils veulent pas le tuer quand même, ils disent, oh, mais non, on veut pas. Alors c'est lui qui dit, oh ben, jetez-moi à la mer, je suis un mauvais sujet. Donc et puis ensuite, les Ninivites, vous savez, mais ils se convertissent à toute vitesse. Le roi de Ninive, dès qu'il entend que Dieu pourrait ne pas être content, enfin, les païens apparaissent sous un jour singulièrement favorable dans le livre de Jonas. Et puis, n'oublions pas que Noé avait reçu des premiers commandements, on peut dire, de Dieu, enfin du moins des conseils, notamment sur le fait de ne pas tuer. Et chez les Juifs aujourd'hui, on dit souvent que les païens, c'est-à-dire donc les non-juifs, les goïms, ils n'ont pas le décalogue, enfin, sauf que on l'a pris quand même, nous, mais qu'il n'était pas fait pour nous, en quelque sorte, le décalogue. Ce qui était fait pour nous, c'est les commandements de Noé. Alors ils arrivent à trouver sept commandements de Noé. Quand on lit le texte de Genèse 9, je ne sais pas comment on peut trouver sept commandements, parce que disent l'un c'est d'instituer des tribunaux, l'autre c'est évidemment de ne pas tuer, ça c'est dans Genèse 9. Enfin, il y a sept commandements noachiques, comme on dit, qui sont la morale des païens en quelque sorte. La morale d'Israël, c'est le décalogue, la morale des païens, c'est les commandements noachiques. Mais c'est un peu théorique, puisque en tout cas les chrétiens, eux, ont adopter bien sûr les dix commandements. Alors dans le Nouveau Testament, cette réflexion de sagesse n'est pas du tout absente. Vous la trouvez même dans l'Évangile. Alors, c'est une chose qui me fait toujours sourire, c'est que dans les passages, pourtant, on peut dire les plus abrupts de l'Évangile, comme quand Jésus dit qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, ou son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, qui ne prend pas sa croix, je suis pas. Enfin, c'est vraiment la volonté de Dieu tranchante. Et eh bien, ensuite, eh ben, celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire, en fait, si vous n'êtes pas capable de risquer quelque chose, en fait, vous n'aurez même pas ce que vous avez. Donc, c'est une réflexion de sagesse, c'est une réflexion de bon sens. Et alors, il y a encore ce texte qui est tout à fait curieux où il dit, vous savez ça, vous l'avez souvent entendu, un roi qui part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir pour voir si avec 5 000 hommes, il peut attaquer l'autre qui en a 10 000, et s'il ne peut pas, il envoie une ambassade. Donc, sous-entendu, soyez, regardez, pesez, comprenez, si vous ne prenez pas un choix un peu net, eh bien, en fait, vous allez perdre. Ce que je vous propose, c'est pas un suicide, c'est pas de faire des choses insensées, c'est de faire des choses, au contraire, très sages. C'est très curieux, cette coexistence au sein de la parole de Jésus, du commandement le plus abrupt, le plus radical, avec une réflexion, finalement, de bon sens. En fait, celui qui n'est pas capable de prendre un parti, il sera toujours malheureux, quoi. Il aura pas ce qu'il pourrait avoir s'il avait fait confiance à ce que je lui demande. Et puis, en plus, il va même perdre ce qu'il avait. Et les béatitudes elles-mêmes sont un bon exemple de littérature de sagesse. Parce que dans les sagesses, par exemple dans le Siracide, vous avez des béatitudes aussi, des bienheureux. Le fait de présenter une conduite comme heureuse, ça, c'est tout à fait la démarche du sage qui nous dit celui qui fera, donc, qui n'empruntera pas de l'argent sans le rendre, eh bien, heureux est-il parce que il n'aura pas d'ennemis qui lui en voudront, etc. Donc, la forme même des béatitudes que Jésus emploie renvoie en quelque sorte à la sagesse. Alors chez saint Paul, il y a le texte si important du début de la première aux Corinthiens, où il parle, alors c'est une fois un texte époustouflant, il dit la sagesse du monde est folle, et elle n'a pas reconnu Dieu qui révélait sa sagesse à lui. Eh bien, c'est la folie de Dieu qui confondra la sagesse du monde, parce que la sagesse de Dieu est plus sage que la folie des hommes. Donc la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc en fait, Dieu va passer par ce qui paraît le contraire de la sagesse, c'est-à-dire la croix, fait de perdre sa vie, eh bien en fait, ça se révélera la chose la plus solide, la plus définitive, la plus efficace. Donc, vous voyez, c'est un retournement dialectique, c'est un texte d'une force extraordinaire. Saint Paul dit, la sagesse de Dieu est passée par la folie de la croix et s'est révélée en fait plus sage que la sagesse des hommes. Donc, conclusion, soyez des sages, soyez intelligents, dit Jésus, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, en réalité, en suivant Jésus, en suivant ce qu'il nous propose, en suivant cette voie paradoxale qu'il nous propose, eh bien, en fait, nous serons vraiment sages. La sagesse, c'est pas de préserver sa petite vie dans son coin, c'est de se donner vraiment. Eh bien, donc, comme ça, on connaît le bonheur. Donc, cet appel à la sagesse est évidemment un peu curieux, mais... Et il est très essentiel chez saint Paul. Alors la loi naturelle, le premier exemple vraiment de réflexion sur la loi naturelle, c'est saint Paul dans les premiers chapitres des Romains. J'y ai fait largement appel dans mon dernier cours. J'en profite pour dire que s'il y en a qui veulent les polycopiés des premiers cours, ils ont qu'à me mettre leur adresse email et je leur enverrai. Donc, rappelez-vous, nous avions parlé de la conscience, et saint Paul disait, les païens ont au fond d'eux-mêmes une loi innée, une loi du bien et du mal. La preuve, c'est les jugements de blâme et d'éloge qu'ils s'adressent mutuellement. Si je félicite quelqu'un d'avoir été courageux, si on honore quelqu'un parce qu'il a été hospitalier, mettons, si on met en valeur la générosité de quelqu'un, c'est qu'on a un certain nombre de valeurs innées qui font qu'on trouve ce comportement beau, valable. Donc les païens eux-mêmes ont au fond d'eux-mêmes comme une loi. Alors, ils n'y sont pas fidèles, ça c'est entendu, nous non plus d'ailleurs, dit-il en parlant des Juifs. Mais malgré tout, Dieu ne les a pas laissés sans loi. Hein, c'est tout à fait important et c'est bien notre sujet d'aujourd'hui, de cette loi inscrite dans les cœurs. Et enfin, je finis par ce passage de saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et les louanges, et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Alors, saint Paul est paradoxal lui aussi. Dans d'autres textes, il nous dit, suivez pas les païens, renouvelez votre façon de penser, ne jugez pas selon les valeurs du monde. Et puis là, il est en train de donner presque les païens en modèle aux chrétiens. Du moins, peut-être pas ce qu'ils font, mais au moins ce qu'ils visent. Tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable. Il emploie tout un vocabulaire qui est celui de la sagesse stoïcienne, dans lesquels ces mots avaient une force particulière. Alors, regardons maintenant un tout petit peu l'histoire de l'Église. D'abord, on trouve chez des auteurs, pas chez tous, mais chez un certain nombre des premiers pères de l'Église, on voit un éloge de la pensée philosophique. En gros, les pères de l'Église n'ont pratiquement aucune sympathie pour les religions païennes. Pour eux, c'est immoral, c'est ridicule, ces dieux qui ont des têtes d'animaux, enfin, ça leur inspire que de la répulsion. Mais par contre, la philosophie leur paraît un domaine valable, même s'il ne s'agit pas de tout prendre. Mais il y a malgré tout un préjugé favorable qui est donné à la philosophie et qui est considéré même comme une préparation évangélique. On trouve chez Eusèbe de Césarée, cette idée que pour les païens, la philosophie a été un peu ce qu'a été l'Ancien Testament pour les juifs. C'est aller loin quand même, hein, de reconnaître une valeur donc, or, quelle est cette philosophie qu'il considère comme ça? Ben, c'est clairement la philosophie morale. Telle qu'on la trouve chez les platoniciens ou encore plus chez les stoïciens. Donc il y a une sympathie sérieuse pour cette réflexion humaine qui paraît déjà valable. Alors excusez-moi, j'ai mis Jérôme, c'est une erreur, c'est Ambroise, hein. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompé, c'est Saint Ambroise dont je vais vous parler. Jérôme serait beaucoup dans ce sens-là. Saint Ambroise a écrit un livre, un traité qui s'appelle De officiis, c'est-à-dire des devoirs. Et en fait, il copie un livre de Cicéron qui s'appelle exactement pareil, que vous pouvez trouver c'est traduit, c'est la figure dans l'école des classiques Budé. Hein. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il prend le plan de Cicéron, et il n'a pas peur, et une partie des exemples même de Cicéron. Alors, on sait que ce livre a été écrit, en fait, pas pour n'importe qui, il a été fait en gros pour les clercs, c'est-à-dire tout le monde de ceux qui vivaient autour de l'Église, dont certains se préparaient de prêtres, d'autres avaient des fonctions de diacre ou d'autres fonctions. Et en réalité, il joue un peu l'émulation, comme saint Paul, en disant, ben voyez, regardez ce qu'un païen comme Cicéron a dit, eh bien, faites au moins ce qu'il dit, ça serait le minimum quand même, hein, de vous chrétiens, d'avoir une manière de vivre qui est une dignité. Et donc, il commente pratiquement, parce qu'il se tient tellement près du texte de Cicéron que on suppose que par ailleurs les gens l'avaient à côté, enfin, mais il tire exemple de tout ça. Alors, chez Augustin, on a tout et le contraire de tout, c'est-à-dire que Saint-Augustin est, comme tous les grands génies, un peu paradoxal. Il y a un côté que j'appelle ici optimiste, c'est-à-dire dans lequel Augustin voit l'influence du Verbe de Dieu sur le cœur humain. Tout homme a été fait dans le Verbe. Donc tout être humain porte une ressemblance avec la raison, parce que logos en grec, vous savez, ça ne veut pas seulement dire parole, ça veut dire aussi raison. Donc si l'homme est logique, c'est qu'il a été fait à l'image du logos. Ça, il n'est pas le premier à avoir dit ça, les pères de l'Église, d'autres pères de l'Église grecque notamment l'ont dit. Mais alors il y voit l'origine justement du sens moral, le fait que l'être humain a une perception du bien et du mal qui lui est comme innée et qui vient de sa ressemblance avec le logos. Alors ça, c'est le versant optimiste. Le versant pessimiste, c'est celui du dernier saint Augustin, c'est-à-dire de celui qui se bat contre les Pélagiens, c'est-à-dire de ceux qui ont... Je crois que j'ai l'occasion d'en parler, non, la fois dernière, je ne me souviens plus. Mais Pélage, vous le savez sans doute, c'était un moine qui avait un grand sens de la vertu, de l'effort, de l'ascèse, de tout ça, qui disait en gros... Dieu nous donne des atouts, maintenant à nous de jouer. Il nous jugera à l'arrivée, sur la ligne d'arrivée. Alors pour saint Augustin, c'est insupportable, parce que lui qui a fait l'expérience de sa faiblesse morale et spirituelle, quand il renâclait devant la conversion qu'il sentait pourtant devenir nécessaire, eh bien, il a une vision beaucoup moins optimiste de la nature humaine, et c'est là qu'il fait une réflexion sur le péché originel, sur tout ça. Donc il a cette phrase qui, évidemment, prise comme ça, comme telle, est insupportable. Les vertus des païens sont des péchés. C'est-à-dire, alors il faut comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire, si un païen, à cause de la moralité qu'il a naturellement, et sans doute d'une force de volonté dont il n'est pas responsable, que Dieu lui a donnée, s'il se met à considérer que ce qu'il a, c'est suffisant, et s'il ne demande pas à Dieu d'aller jusqu'au bout de ses possibilités, eh bien... qui n'avance pas, recule en quelque sorte, qui en reste à un certain niveau et ne va pas plus loin, en fait, déchoit. Alors ça devient insupportable quand on le dit comme ça. Mais quelqu'un qui disait, le meilleur exemple de ça, c'est dans la littérature française, c'est Don Juan de Molière, dans lequel il y a un personnage qui demande l'aumône, et dit « Pour l'amour de Dieu, mon bon Seigneur !» Et l'autre lui jette une pièce en disant « Tiens, c'est pour l'amour de l'humanité. » En soi, donner de l'argent à pauvres, c'est plutôt bien, mais il le gâche par le fait qu'il refuse Dieu, par le fait même, puisque l'autre lui demandait au nom de Dieu, lui dit « Au nom de l'humanité. » Donc, d'une certaine manière, on voit comment un acte qui peut être moralement plutôt recommandable peut être vicié par le fait qu'on se coupe de Dieu. Ça va ? Alors,
d'orgueil.
Oui, c'est ça, l'orgueil, la suffisance. Il y a une phrase de saint Augustin que j'aime beaucoup, il dit que quand tu dis c'est assez, c'est-à-dire quand tu refuses cette ascension d'aller toujours plus loin dans l'amour de Dieu, iam peristi, t'es déjà mort. Hein, celui qui n'avance pas vers la lumière régresse. Alors saint Thomas d'Aquin, c'est évidemment très différent dans la mesure où il fait un acte de force qui est de prendre en régime chrétien le système d'Aristote dans son deuxième, parce qu'il y a deux traités de morale d'Aristote, mais le plus achevé, c'est l'éthique à Nicomaque. Et qui défend, alors vous savez ce qu'on appelle souvent le démonisme rationnel, c'est une vision autour du bonheur. Eudémon, ça veut dire heureux. Et le bonheur suppose un homme achevé, qui a cultivé des vertus, qui est capable de bien diriger sa vie, de donner une dignité à ses actes. Donc cette vision très, très positive, qui évidemment peut paraître dangereuse par moment, mais qui cherche le secret du bonheur par... l'acquisition des vertus. Alors, je ne vais pas vous faire toute la théorie des vertus d'Aristote, c'est un très grand chapitre, mais saint Thomas d'Aquin n'a pas peur de prendre cette morale, parce qu'au fait, elle est épaulée sur une anthropologie, c'est-à-dire sur une vision de l'homme. Et c'est ça qui, sans doute, qu'il a jugé sa supériorité, c'est que c'est pas seulement de nous dire il faut faire ci, il faut pas faire ça, il y a telle conduite qui est morale, telle conduite qui est immorale, mais de le fonder sur une réflexion en profondeur sur la nature de l'homme. C'est ça la puissance de pensée d'Aristote. Même les stoïciens n'étaient pas arrivés à ça. Ils avaient une visée de l'acte moral, mais qui n'avait pas une charpente intellectuelle aussi trapue, en quelque sorte, que celle que donne Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Donc, saint Thomas va être vraiment le premier théoricien de la morale naturelle. Pour lui, le christianisme, en gros, valide la morale naturelle. La morale de l'Évangile, c'est la morale naturelle. Alors, bien sûr, il sait que dans l'Évangile, il y a des choses qui sont héroïques, qui sont au-delà de ce qu'on peut demander au plan moral. Quand Jésus demande la pauvreté absolue ou le renoncement complet à la procréation, mais c'est pour certains. Alors ça, c'est les conseils. Donc le côté héroïque de la morale évangélique va aller du côté des conseils, tandis que le reste, ben, ça va être la cultiver les vertus. Hein, la vertu, alors vous savez, il y a quatre vertus cardinales qui sont la prudence, la force, la tempérance et la justice, hein, qui sont comme une assise solide qui permettent à l'homme de se construire autour de ces quatre vertus. Alors en plus, il y a les vertus surnaturelles de foi, d'espérance et de charité, mais qui n'interfèrent pas ici, puisque nous sommes au plan seulement moral. Et donc, le grand coup, c'est de dire, ben, au fond, la morale évangélique, c'est la loi naturelle. Je pense pas que saint Jérôme, saint Ambroise aurait dit exactement pareil quand même. Mais et donc ceci va passer ensuite dans la tradition de l'Église et faire que la plupart du temps, par exemple, tout ce que je suis en train de vous expliquer dans cette année, ça n'aurait pas fait partie de la théologie. Ça vous aurait été proposé en philosophie. Mais la théologie, elle s'occupe des sacrements, de l'incarnation, de la Trinité. Mais l'homme, en quelque sorte, on le remet complètement aux mains de la philosophie en disant les meilleurs des païens sont arrivés jusqu'à un certain point à dire des choses justes de l'homme et ils sont arrivés à comprendre le fonctionnement de l'être humain. Alors bien sûr, le christianisme s'y intéresse et parfois il corrige peut-être certaines choses qui étaient insuffisamment vues, mais il n'est qu'une force d'appoint en quelque sorte. Le christianisme valide la doctrine morale d'Aristote. Alors ça n'a pas été sans provoquer des vagues et des diverses. Alors la plus importante je vais rentrer une minute dedans, mais je ne voudrais pas m'attarder trop quand même, c'est ce qu'on appelle le nominalisme. Un siècle après saint Thomas, c'est-à-dire au XIVe siècle, un franciscain du nom de Guillaume d'Ockham développe une théorie. Alors je ne vais pas rentrer dans tout le nominalisme, mais au fond, il est un peu choqué par ce qu'a dit saint Thomas, et il veut garder une certaine transcendance de la loi divine, en disant, c'est pas Dieu n'est pas seulement le garant des valeurs humaines. Donc, ils vont mettre en valeur le fait que ce qui fait la valeur d'un précepte, c'est que Dieu le veut. Alors, il y a cette manière paradoxale de dire, il dit, si Dieu commande quelque chose, c'est pour ça que c'est bon. Donc, c'est pas parce que c'est bien que Dieu le commande, Mais c'est parce que Dieu le commande que c'est bien. Et il va jusqu'à dire, si Dieu nous avait commandé de le haïr, ça serait bien de le haïr. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a une totale déconnexion entre le plan des valeurs humaines et de la pensée divine. Alors, bien sûr, tel que c'est insupportable, ça. C'est inacceptable, parce que, d'ailleurs, ça va aboutir à un effet paradoxal, c'est-à-dire, en mettant en valeur l'arbitraire de la loi divine, on va être considéré que l'homme, de son côté, ben, il a s'organiser. Et ça va être le droit, notamment, qui prend une importance considérable à cette époque-là dans les sociétés occidentales, le droit qui réglemente notre habitat sur Terre. Dieu, les pensées de Dieu sont trop élevées, alors nous, organisons-nous. La loi, c'est la loi qu'on va appeler la loi positive. Vous savez, on parle aujourd'hui des naturalistes et des positivistes, c'est-à-dire la loi telle que peuvent le décider une assemblée, un parlement. Donc, le résultat, ça va être de couper en quelque sorte la volonté divine qui se réduit à des commandements arbitraires, encore une fois. Dieu a décidé que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Et par ailleurs, une loi positive qui est celle que la société française reconnaît, le mariage homo, voilà, c'est un fait. Et puis, bien sûr, la question ne se posait pas du tout à cette époque-là comme ça, mais finalement, ça va être la porte ouverte à l'essor du droit positif dans les sociétés occidentales, qui ne cherchent plus à s'accorder avec une loi naturelle qui serait d'origine divine. Alors, il y a un très bel exemple, une suite en quelque sorte de la pensée de saint Thomas d'Aquin, qui est Matteo Ricci. Vous avez peut-être entendu parler de ce jésuite italien qui est venu en Chine et qui a magnifiquement réussi, parce qu'il a été le premier occidental à être admis dans l'entourage de l'empereur. Au départ, il était arrivé vêtu comme les sages taoïstes qui annonçaient des trucs, mais il a compris que c'était pas du tout la bonne entrée, qu'il fallait qu'il s'habille au contraire comme un mandarin, qu'il se présente comme un mandarin chrétien, lettré, connaissant les textes chinois, etc., et qui propose. Alors, il a séduit beaucoup l'empereur en lui montrant des horloges, ça a beaucoup flatté l'empereur, qui a voulu s'attacher les services de ce savant personnage. Et Matteo Ricci a découvert Confucius. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de Confucius, mais Matteo Ricci dit, mais après tout, la sagesse de Confucius, c'est pas mal. Et comme il dit, c'est un autre Sénèque, ça. C'est comme un sage stoïcien, après tout. Il recommande quoi ? Il recommande le respect des parents, il recommande le respect de l'autorité, il a le sens de l'honnêteté, enfin, il y a tout, quoi, dans Confucius, à la limite. Donc, il a fait un grand usage des principes confucéens, ce qui évidemment ne pouvait que faciliter l'arrivée du christianisme en Chine, au lieu de paraître des tout-fous qui voulaient tout casser. On avait l'air de savoir comprendre les merveilleux trésors qu'ils avaient, donc ça a facilité les choses. Ensuite, ça a provoqué, vous savez, ce qu'on appelle la querelle des rites, c'est-à-dire que, parce qu'il allait très loin dans son acceptation de Confucius, même les rites pour les ancêtres, il tolérait, il y avait des rites familiaux pour les ancêtres, des choses comme ça, qui n'étaient pas vraiment religieux, mais enfin qui avaient quand même un petit côté religieux. Donc ensuite, il va y avoir une forte réaction des dominicains qui disent c'est insupportable, on est entré dans le syncrétisme, où allons-nous, et ça va provoquer le rejet du christianisme par la Chine au 18e, 19e siècle. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, l'humanisme des Lumières, bien évidemment, est un rouleau compresseur pour le christianisme, dans la mesure où il ne tolère en quelque sorte dans le christianisme que tout ce qui va dans le sens le plus horizontal, c'est-à-dire finalement les valeurs humaines. Mais les valeurs humaines, c'est pas Aristote, hein, c'est valeurs humaines ramenées vraiment à l'horizon de, alors dans la bienfaisance, la philanthropie, enfin, vous voyez un peu Rousseau, quoi, qui est très caractéristique de ça. Il dit, moi, les dogmes, on peut jamais s'entendre, hein. Il y en a qui disent que c'est comme ci, d'autres que c'est comme ça. Si vous êtes protestant, vous dites d'une façon, être catholique, vous dites d'une autre. Mais tout le monde est bien d'accord qu'il faut avoir respecté ses parents, qu'il faut, etc. Donc, espèce de fond, tous les hommes sont d'accord sur les valeurs les plus fondamentales. Et le christianisme a joué son rôle quand même pour diffuser une certaine idée. Enfin, il y a des textes assez favorables où il dit, bah, finalement, les hommes de religion, c'est plutôt mieux que ceux qui ne sont pas de religion, mais on ne les écoute que s'ils nous parlent de ça. Le reste, on les laisse à leur querelle entre eux pour savoir ce qu'il en est de la grâce suffisante ou de la grâce, je sais pas quoi, le fameux débat des jansénistes et des jésuites. Alors le protestantisme libéral, c'est un peu pareil. Celui qui est le grand auteur du protestantisme libéral, qu'on appelle Adolphe, un prénom qui a servi à quelqu'un d'autre, comme vous savez, Adolphe Arnac, et qui dit, bah, au fond, il y a deux vérités dans l'Évangile. C'est la paternité de Dieu et la fraternité universelle. Le christianisme a apporté ça aux hommes, il a rejoint l'instinct naturel des hommes, c'est ce qui a fait son succès. Quand vous avez fait autre chose, des dogmes, des machins, ça n'a aucun intérêt. Alors, ce qui est très curieux, c'est la réaction au sein du protestantisme qui va finalement dans le sens du nominalisme. Parce que c'est le même danger, vous comprenez. De même que Guillaume d'Ockham s'était inquiété du fait qu'on rapprochait finalement trop la volonté de Dieu de ce que l'homme, l'honnête homme, se représente comme bien ou mal. C'est-à-dire qu'on oublie le côté transcendant de la volonté de Dieu. Et comme ça, on met à part le commandement divin comme dans son arbitraire, dans son caractère coupant et paradoxal. Ouais. Donc, j'ai lu, enfin Jacques Ellul, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un homme, il est mort il y a une vingtaine d'années, c'était un professeur de droit de la faculté de Bordeaux, c'est quelqu'un de très remarquable, enfin moi, ses livres. Il y a plusieurs de ces livres qui, vraiment, je conseillerais.
J'ai écrit Exégèse des lieux communs.
Voilà, il a fait ça, il a fait. Voilà, il a toute une production, mais curieusement, qui est plus connue aux États-Unis qu'en France. La France n'a pas accueilli l'enseignement d'Ellul dans l'ensemble. Il est moins connu qu'aux États-Unis. Et alors, j'ai lu son livre sur la morale, qui est du nominalisme à l'état pur, c'est-à-dire en disant les commandements divins, de toute façon. Il y a de l'eau dans le gaz depuis le paradis terrestre. L'homme a voulu conquérir le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire il a voulu s'approprier la décision du bien et du mal. Et comme il s'est coupé de Dieu, il est pécheur, maintenant il n'est plus capable de retrouver les intentions de Dieu à partir de lui-même. Donc s'il y a une morale naturelle, elle est pécheresse par essence. C'est celle d'un homme qui se prend pour le centre du monde. Donc les catholiques, évidemment, ils en prennent un coup sur la figure parce qu'ils disent, ben voilà, vous catholiques, vous avez essayé de marier la carpe et le lapin, vous avez essayé de mettre tout le monde d'accord en disant que Dieu et les valeurs humaines, c'était main dans la main, eh bien, c'est impossible. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'exactement comme les nominalistes, il va finir par accepter quand même une morale humaine, mais qui est purement humaine cette fois-ci, qui ne se prétend pas dérivée de la sagesse divine, qui est relative, modifiable, qui est simplement ce qui est nécessaire pour organiser la vie en société. C'est-à-dire, c'est le droit positif, encore une fois, contre le droit naturel. Est-ce que je suis clair? Bon, alors je vais à mes conclusions, ce qui sera peut-être le plus important. J'ai 20 minutes, j'espère que je vais y arriver. Alors, ma première thèse, c'est nous ne pouvons pas revenir sur un fait qui est dans la Bible si significatif, c'est-à-dire l'assomption de la sagesse. Si la révélation elle-même a fait une place à la sagesse des nations, eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il y a bien une valeur de la réflexion humaine, même si sans doute il faut mettre des restrictions sur certains aspects de cette réflexion, malgré tout, Dieu n'a pas négligé, n'a pas considéré comme nul l'effort séculaire des hommes pour essayer de comprendre leurs conditions, d'organiser leur vie, de chercher les meilleures manières de s'organiser. Nous rejoignons ce que Saint Jean-Paul II disait dans Veritas et Ratio, la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever en contemplation de la vérité. Donc, optimisme, mais qui est, je crois, celui de l'écriture, oui, il y a une place pour cet appel à la raison, pour cet appel à la réflexion. Néanmoins, deuxième point de vue, cette connaissance du bien par l'homme est partielle et souvent erronée. On ne peut pas oublier que le péché originel a fait son œuvre, et pas seulement sur les cœurs, mais aussi sur les intelligences. Le signe le plus net, c'est les divergences. Parce que cette morale soi-disant universelle, elle n'est pas si universelle que ça. On voit bien qu'il y a eu des peuples entiers qui ont fait des choses abominables, comme les sacrifices humains ou le fait de faire monter les anciens et les vieux aux cocotiers pour les faire tomber, pour ne pas nourrir des bouches inutiles. C'est pas l'air de les travailler beaucoup. Aristote lui-même pense que l'esclavage est une nécessité. La polygamie est universelle, même dans l'Ancien Testament d'ailleurs. L'universalité de la morale naturelle, elle n'est pas visible, en tout cas au premier coup d'œil. C'est pas en prenant l'état général des mœurs humaines, ni même des valeurs humaines, qu'on aura forcément un indicateur très sûr. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu est intervenu. Si ça suffisait, il n'y aurait pas tout ce qu'on a vu depuis le début de ce cours, l'intervention de Dieu à travers les commandements. Alors, bien sûr, on est face à deux schémas. Le schéma de saint Thomas d'Aquin, en gros, c'est-à-dire dans lequel on accepte en quelque sorte tout le soubassement rationnel de la morale d'Aristote et on dit que c'est ça la morale chrétienne, soit, comme les pères de l'Église avant lui, c'est-à-dire en triant en quelque sorte, cas par cas, les affirmations de la morale païenne, disant celle-là oui, celle-là non, considérant que le rôle de la révélation était d'être comme un principe de discrimination entre des choses vraies, des choses fausses, que dans la morale philosophique qu'il rencontrait, il y avait des choses qui pouvaient consonner avec le christianisme et qu'il fallait adopter, il y en avait sans doute d'autres qui ne consonnaient pas et qu'il fallait rejeter. Vous voyez, la différence, c'est que saint Thomas se trouve face à une pensée systématique. Les pères de l'Église étaient face à des doctrines différentes et ils faisaient du cas par cas. Tandis que saint Thomas a cru trouver chez Aristote un principe anthropologique qui donnait une assise à la morale et qui permettait en gros, très gros, d'identifier la morale que Dieu nous demande de suivre avec les résultats de la recherche d'Aristote. Bien sûr, remanié par saint Thomas d'Aquin, car malgré tout, on peut le voir sur beaucoup de points, les coups de pouce qu'il a donné à Aristote pour arriver à le rendre christianisable. On voit bien qu'il n'était pas aveugle sur les lacunes de la pensée d'Aristote et sur certains points, il lui a fait subir des transformations assez sensibles quand même. Mais personnellement, je ne cache pas que je serais plus du côté de la position des pères de l'Église antérieure, c'est-à-dire voyant que notre recherche de la vérité en matière morale doit pouvoir s'appuyer certes sur les réflexions humaines, mais avec toujours un principe critique, quoi. C'est-à-dire de ne pas les assimiler systématiquement et donc de ne pas rentrer dans un système. Parce que le caractère de la pensée d'Aristote, c'est une pensée systématique. Tout est admirablement charpenté, mais alors il faut prendre tout ou pas le prendre. Tandis que Platon, on peut admirer des choses chez Platon, mais on n'est pas obligé de le suivre en tout. Et pareil pour les stoïciens, tout ça. Donc, il faut pouvoir dire que malgré tout, la morale chrétienne, ce n'est pas directement une pensée philosophique qui pourra nous la donner sans précaution. Et que notamment, s'il faut que nous fassions une place à la sagesse de la croix, il faut bien accepter que quelque part, la morale chrétienne déborde de la morale naturelle, même si elle l'inclut. Attention, hein, ce point, est, le paragraphe 2 est certainement difficile, et à mon avis, c'est lui qui porte le plus intéressant de notre réflexion d'aujourd'hui. Alors là, je vais maintenant dire des choses beaucoup plus évidentes. L'appel à la morale naturelle a le grand avantage de faciliter le dialogue, parce que si nous arrivons devant des non-chrétiens en leur disant... Vous savez, de toute façon, vous pouvez pas comprendre pourquoi c'est mal de faire ceci ou cela. Nous, on sait, c'est Dieu qui nous l'a révélé, c'est à prendre ou à laisser, il n'y a pas de dialogue. Donc, que nous puissions être à même de discuter raisonnablement avec des gens, des hommes et des femmes qui n'ont pas forcément les bases qui sont les nôtres, et de pouvoir se situer au moins jusqu'à un certain point sur le plan de la nature humaine n'est pas inutile, et parfois ça peut même être fécond de montrer comment Dieu, ce que nous savons nous par la révélation, en fait rejoint des vérités que les hommes peuvent découvrir et qui... Si... Mon point 4... L'avantage aussi de la loi, d'une certaine ouverture sur la loi naturelle, c'est qu'elle permet sur certains sujets de prolonger des exigences de la révélation en direction de questions qui sont nouvelles. Inutile de vous dire que Aristote ne se posait pas beaucoup le problème de l'arme atomique ni des manipulations génétiques. Et que si la loi de l'Église, enfin si l'Église a pu réfléchir sur ces sujets, c'est en grande partie en s'inspirant d'une réflexion sur la loi naturelle, évidemment. Alors, je finis avant la partie en gras qui est à la fin, qui résume et prolonge ce que je dis. En réalité, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la nature elle-même est en cause. Nous ne sommes pas face à des gens. Dans des siècles, on était face à des pensées qui se situaient elles-mêmes sur le terrain de la nature. Même les lumières du XVIIIe siècle, le mot nature était sans cesse employé. Tandis que nous arrivons dans une situation un peu nouvelle, dans laquelle justement la nature, on n'y croit pas, on veut la modifier, on pense que c'est un carcan même, la nature. Donc, d'un coup, le christianisme se trouve pris à contre-flanc. Pendant des siècles, on a essayé d'ajuster notre rapport à la nature, mais voilà qu'on nous explique maintenant que la nature, on n'en veut pas. Donc, paradoxalement, on va se trouver les défenseurs de la nature, parce qu'on veut quand même maintenir qu'il y a une certaine stabilité dans le projet de Dieu. Que l'homme n'est pas quelque chose qu'on pourrait modifier à volonté, décider de rajouter un cinquième membre, un troisième bras, ou de le doter de le transhumanisme. Donc, en quelque sorte, probablement Jean-Paul II a pressenti ça, en se rendant compte que finalement, en essayant de... parler de la nature humaine et nous disions tout simplement la stabilité de ce que Dieu a voulu pour l'homme, la liberté n'étant pas d'inventer une nouvelle nature ou de changer sa nature, mais de jouer, heureusement et filialement, de notre nature, c'est-à-dire c'est tout le registre de la personne. C'est-à-dire la personne, en termes des conciles, la personne, c'est ce qui donne à la nature son tour propre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même nature divine, mais il y a une tournure filiale, une tournure paternelle, et une tournure pneumatique, si j'ose dire. Enfin, c'est-à-dire que chaque personne vit sa nature dans une manière qui lui est absolument propre. Et au fond, la revendication d'aujourd'hui, c'est de faire place à ce fait qu'on puisse donner à notre nature un déploiement personnel. Mais, en quelque sorte, on va plus loin que ça, malheureusement, c'est-à-dire de vouloir que la nature elle-même ne soit plus un cadre reçu qu'il faille assumer et dans lequel on peut grandir. Alors, je résume un peu dans les derniers paragraphes pourquoi cette question est importante et même vitale. D'abord, donc, parce que, je viens de le dire, elle nous aide à maintenir le fait que l'homme est une créature voulue par Dieu et que Dieu a sur elle un certain nombre d'intentions qu'il a mis dans notre nature, qu'il a mis le mode d'emploi dans notre nature. Donc, de maintenir la stabilité, en quelque sorte, du projet de Dieu qui n'est pas remaniable à l'infini, même s'il est... Chacun de nous le vit à sa façon, mais la partition est la même, si vous voulez. Le jeu est différent, mais la partition est la même. Donc la nature, c'est un peu comme la partition. Donc les progrès techniques, n'importe quoi, qui peuvent modifier des choses, en fait, ne changent pas notre nature. Alors, on voit que le mot nature, c'est un mot piégé, évidemment. Parce que pour beaucoup de gens, ne pas toucher à la nature, ça voudrait dire, par exemple, ne pas avoir recours, je ne sais pas, aux transfusions sanguines ou aux opérations, aux greffes, etc. Ce n'est pas le respect de la nature au sens du comme on est. Bien sûr que dès qu'on fait de la chirurgie, on bouscule le corps humain. Mais la nature, au sens philosophique et théologique du mot, c'est la structure de l'être. C'est pas forcément les composantes de cette structure pris individuellement. Parce qu'au moment de l'encyclique Humanae Vitae de Saint Paul VI, on dit « Ah bah oui, alors vous êtes contre la contraception chimique parce que ça bouscule la nature. » C'était pas la question, parce que dès qu'on prend un médicament, on bouscule quelque chose de la nature. Mais ça veut dire ce qui est la finalité de notre être. C'est ça que voulait dire Paul VI. Donc, première importance, de nous rendre sensibles à la stabilité de notre être créé devant Dieu. Deuxièmement, de ne pas donner sentiment que notre morale serait seulement celle d'un groupe déterminé, particulier, qui aurait ses règles, comme, je ne sais pas, telle secte dans laquelle les pythagoriciens ne mangeaient pas de fèves, paraît-il. On ne sait pas pourquoi, mais la fève était interdite aux pythagoriciens. Enfin, d'accord, moi, je ne suis pas pythagoricien, donc je peux prendre des fèves. Et, la morale chrétienne, ce n'est pas seulement la morale de la tribu. Elle a une vocation universelle. Même si tout le monde ne le sait pas, elle rejoint tout homme. Et c'est avec la conviction, d'ailleurs, que tout homme ayant été fait pour ça, trouvera là, même confusément, quelque chose qui lui correspond. Que ça ne sera pas un viol, ça ne sera pas une manière d'imposer aux gens des choses qui ne leur seraient pas naturelles, c'est rejoindre. Alors, même s'ils ne le savent pas, c'est ça qui est évidemment difficile, à la fin de son texte Evangelium Vitae, Jean-Paul II envisage le cas où il faudrait que l'État, s'il écoutait l'Église, interdise un certain nombre de choses Mais évidemment, elles l'interdisent à des gens qui ne l'ont pas forcément convaincu. Alors, parce que c'est ça, de dire que la loi naturelle doit l'emporter, c'est penser aussi qu'elle a une valeur en soi, même pour des gens qui ne la reconnaîtraient pas. Alors, c'est bien difficile dans le contexte actuel de. Ben ça a soulevé un tollé d'ailleurs, ce texte était à propos des manipulations génétiques, en disant, voilà, ça c'est ce qui devrait être. Hein, il faudrait que les sociétés le promeuvent et sous-entendu, et le fassent passer dans la législation. Mais c'est un autre problème. On va pas tout compliquer parce que ça nous mènerait aussi. Alors, donc dernièrement, ben, ce que j'ai dit aussi un peu plus haut, c'est-à-dire le fait que si nous postulons que partout et toujours l'homme a été fait d'une certaine manière par Dieu, et que ce que l'Évangile, que la loi de Moïse, que tout ça nous dit, c'est fondamentalement la même chose que ce qui est inscrit dans l'être humain, il faudra quand même rendre compte du fait que beaucoup de gens n'acceptent pas ça, ne le vivent pas, ne le reconnaissent pas, et qu'en fond, à la limite, elle est naturelle, mais elle n'est pas forcément universellement comprise et reçue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire plus de philosophie pour apprendre aux gens ce qu'ils devraient savoir? Est-ce qu'il faut faire plus d'évangélisation pour amener les gens à comprendre mieux les intentions de Dieu? Peut-être il faut faire les deux. Hein? Voilà, je vais m'arrêter là.
Super, merci.
Alors.